Ben voilà, moi je m'appelle Philippe Vivien, je suis le vice-président du groupe Alixio. Nous sommes avec Maître Jean Chacherer et Marie-Françoise Clavel, très heureux de vous accueillir ce matin pour ce webinaire. C'est intéressant, je dirais, de finir l'année et on voit bien que dans beaucoup d'entreprises actuellement, on constate des réflexions très importantes sur justement ce nouveau triptyque des relations de travail hein, et de la performance économique. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le mettre en évidence. Et on a titré volontairement ce webinaire « Comment concilier écologie, économie et sociale ». Et quand on met en perspective ces trois items, on voit que pour nous tous, professionnels du monde de la RH, du social, du management, du droit, en particulier, on est à un tournant. Face à ces textes, il y a deux approches. Et là, nous, notre rôle ce matin, ça va être d'essayer vraiment d'apporter des solutions et c'est d'être le plus pratique possible pour vous aider dans votre pratique au quotidien. Les deux approches, elles sont très classiques. C'est d'un côté, oh là 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 là, tous ces textes, ils sont insuffisamment précis et ça va être le bazar parce que ça va laisser la place à de la discussion, au dialogue social, à des revendications, à tout ce que vous voulez. Et d'un autre côté, une posture complètement inverse, qui est vraiment de dire, ces textes, ils ont un avantage, c'est qu'ils laissent de la place au dialogue social, il laisse de la place à la pratique et il ne nous enferme pas dans des lignes de nage en permanence. Donc voilà, il y a un parti pris, l'un ou l'autre. Nous, on va essayer véritablement de faire la synthèse entre les deux, sachant que pour ceux qui nous connaissent, notre parti pris, c'est celui du dialogue social et pas celui de la norme qui s'impose à tous en permanence sans possibilité d'innovation. Voilà, je laisse la main à mes petits camarades.
Oui, alors je vais prendre la parole pour un peu introduire le sujet. Philippe Vivien l'a très bien rappelé, il y a eu des attentes fortes de tous les côtés et les attentes seront aussi du côté des organisations syndicales qui ont aujourd'hui des textes entre les mains et qui vont vouloir s'en servir et les faire vivre au nom et pour le compte des salariés. Alors c'est vrai que l'environnement dans l'entreprise, c'est pas un sujet nouveau, c'est pas un sujet nouveau pour les juristes en droit des sociétés, parce que depuis la loi NRE, il y avait déjà des reportings avec un certain nombre de points et de critères environnementaux qui étaient dans la documentation comptable en termes de performance extra-comptable. Au niveau européen, dans le cadre de la RSE et le livre vert, depuis 2001 puis 2011, il y a des exigences en matière de responsabilité sociale et sociétale. Et en droit du travail, c'est arrivé progressivement avec un certain nombre de textes ces 10 dernières années, allant en s'accélérant. J'ai dit les principaux textes qui ont pu concerner finalement les travaillistes, hein, dont je fais partie, la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, qui va avoir un petit impact en droit du travail, mais je dirais presque indolore dans la mesure où cette loi Grenelle 2 avait, pour ceux qui s'en rappellent, eu deux impacts. Le premier, c'est de généraliser les bilans de gaz à effet de serre pour les entreprises de 500 salariés, 250 salariés dans les DOM-TOM. Ce bilan de gaz à effet de serre, le BGES, j'en reparlerai tout à l'heure. Ce BGES avait un pendant dans le rapport finalement de gestion, puisqu'il faisait partie, et ça c'est le deuxième point de la loi Grenelle 2, c'est qu'il fait partie des indicateurs RSE, où on parlait plus de reporting, mais on parlera à partir de ça de déclaration de performance extra-comptable, autres documents dont on reparlera. Ensuite, en droit du travail, plus spécifiquement, c'est à partir de 2013 où on voit arriver un texte, pour ceux qui s'en rappellent et qui est toujours applicable, relatif au droit d'alerte santé-environnement. Alors, ce n'est pas un droit d'alerte environnement au sens large, c'est un droit d'alerte pour les salariés et les représentants du personnel lorsqu'ils estiment de bonne foi que les produits ou les procédés de fabrication, hein, de l'entreprise, procédés de fabrication mis en œuvre, font peser un risque grave sur la santé ou sur l'environnement. Alors il y a toute une procédure et les entreprises doivent avoir à cet égard, je le rappelle, un registre d'ailleurs spécial avec page numérotée. Ensuite, vous avez également une autre loi en 2015 où là, véritablement, l'écologie est rentrée dans le dialogue social par la porte de la mobilité des salariés. 2019, qui, elle, fait rentrer de manière obligatoire dans le champ des négociations obligatoires, cette négociation de la mobilité en disant vous devez négocier, à titre supplétif chaque année, vous devez négocier sur la mobilité des salariés entre le domicile et le lieu de travail pour que les amener en fait à utiliser des moyens de mobilité, enfin en tout cas des véhicules vertueux. On va vous donner des aides, le forfait forfait mobilité, vous allez faire des accords. À défaut d'accord, attention, dans les entreprises donc, qui emploient au moins 100 salariés sur un site et qui sont soumis à la négociation obligatoire, si vous n'avez pas d'accord, le Code des transports vous impose un plan de mobilité et vous devez mettre en place un plan de mobilité traitant un certain nombre de problématiques, en tout cas pour pousser les salariés à utiliser des modes de transport vertueux. Alors, enfin, la loi du 29 décembre 2020, qui est également importante et qui touche finalement à la vie des entreprises, parce que je vous ai dit, indiqué tout à l'heure, que la loi Grenelle 2 a imposé les bilans de gaz à effet de serre dans un certain nombre d'entreprises. Cette loi de finances pour 2021 de l'année dernière oblige les entreprises des 50 salariés à réaliser pour 2022 ou 2023, selon l'effectif, un bilan de gaz à effet de serre simplifié. Donc il va falloir s'y mettre, en tout cas pour les entreprises qui ont bénéficié des mesures mises en place dans le cadre de la problématique du Covid, donc qui ont bénéficié du plan de relance. Ces entreprises vont devoir réaliser un bilan de gaz à effet de serre simplifié. Et enfin est arrivé, et là c'est la révolution, en tout cas c'est un vrai tournant, c'est cette loi du 22 août 2021, dite loi climat et résilience. Alors, ce qui est important de noter, c'est que je dirais trois choses. La première chose, c'est que c'est une loi qui est déjà applicable, et qui ne nécessite pas, au sens formel du texte, en tout cas quand on lit, de décret d'application, même si pour la BDES, on en reparlera, on attend des choses. Ça, c'est la première chose. Donc, depuis le 25 2021, vous devez faire des choses en matière environnementale dans l'entreprise. On y reviendra. Ensuite, ce qui est important de dire, c'est que cette loi fait suite à la Convention citoyenne et que dans le cadre de la Convention citoyenne, les participants avaient des exigences, notamment deux exigences qui n'ont pas été reprises en réalité ou pas reprises comme finalement les choses avaient été exposées. C'est important de le dire parce qu'ils souhaitaient que soit organisée une formation, en tout cas une formation pour tous les salariés d'une journée portant sur la problématique écologique, ce qui n'a pas été repris par la loi. Et la seconde chose qui avait été souhaitée, en réalité, c'est d'associer le CSE, ce qui est le cas, mais quand on relit la convention, c'est d'associer le CSE sur la transition bas carbone. Et c'est totalement différent de la notion de conséquences environnementales. Quand on parle de transition bas carbone, en réalité, on parle de transition énergétique, et on parle plus de bilan de gaz à effet de serre sans traiter des autres points. La loi est allée beaucoup plus loin et beaucoup plus large sur ce qu'il va falloir, en tout cas sur la notion de conséquences environnementales. On en reparlera rapidement, mais ce n'est pas tout à fait ce que demandait la Convention citoyenne. Je tenais à noter la seconde observation, et je crois que c'est, la seconde observation, c'est également important, c'est que il y a en réalité dans cette loi, et c'est le sujet qui va nous occuper, finalement deux volets. Le volet CSE au sens strict du terme, avec quatre mesures. D'abord, la première mesure, c'est de placer l'environnement au cœur vraiment des attributions du CSE, et c'est un vrai tournant, avec des consultations en matière de conséquences environnementales. La mesure 2, c'est d'ajouter des prérogatives environnementales du CSE lors des consultations récurrentes. La troisième mesure, rapidement, c'est l'intégration d'une dimension environnementale aux missions de l'expert comptable du CSE. Et ça, c'est éminemment important parce que ça va, si le CSE n'est pas formé, il pourra se faire aider et on va avoir affaire effectivement à ces experts comptables et il va falloir pouvoir répondre à ces demandes et montrer que des choses sont faites. Et la quatrième mesure, c'est la BDES, cette base de données économiques et sociales qui devient finalement la BDESE, avec un item, alors à titre supplétif, est fixé par la loi, on peut avoir un accord qui précise ce qu'il faut mettre dedans, mais qui comporte un item sur les conséquences environnementales, et là on attend encore le décret d'application. Premier volet CSE, second volet, c'est un volet en termes de gestion de l'emploi et la GPEC, des compétences, où là, il va falloir que on prenne la chose sous l'angle environnemental, c'est-à-dire répondre aux enjeux de la transition écologique. Donc, vous avez bien évidemment compris qu'il y a deux notions qui vont revenir, et j'en reparlerai. C'est d'abord les conséquences écologique, cette notion de conséquence écologique et la notion de transition écologique.
Donc maintenant, on va voir avec cette loi climat, qu'est-ce qu'il faut faire en fait en matière donc de dialogue social. Autant Jean vous a présenté donc cette notion donc de transition écologique, mais dans le cadre de la loi climat, ce dont on parle, c'est les conséquences environnementales. Donc, comment introduire cette démarche? Comment en fait se positionner par rapport à ces nouvelles exigences? Ce qu'on vous propose, c'est un petit peu en fait une démarche pour essayer de rentrer, je dirais, dans le sujet d'un point de vue social, puisque comme on vient de le souligner, c'est cette problématique de transition écologique, on la retrouve dans beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de contraintes. Vous avez aussi, de par votre activité, éventuellement des contraintes professionnelles en termes de matériaux, de process, etc. Donc, en matière sociale, ce qui compte, c'est d'abord de faire un bilan de l'existant, puisqu'on se rend compte que, en fait, cette notion de conséquences environnementales, elle apparaît déjà dans de nombreux documents. Et donc, si vous appartenez, vous êtes une entreprise déjà importante ou vous appartenez à un groupe ou d'une certaine taille, vous avez très certainement à ce moment-là un service RSE où vous êtes déjà soumis à un certain nombre de documents dans lesquels vous pouvez trouver des informations. Donc déjà, dans un premier temps, faire un bilan, je dirais, de l'existant au sein de votre entreprise ou du groupe auquel vous appartenez, pour faire, je dirais, un petit peu la liste déjà de toutes les informations qui sont à votre disposition, de tous les travaux d'évaluation qui ont pu déjà être faits. Ensuite, le deuxième point important, c'est définir le périmètre. Parce que autant la loi parle des conséquences environnementales, mais elle ne donne aucune définition, aucun élément précis sur ce qu'il faut entendre par conséquences environnementales. Donc, c'est un petit peu à vous de l'indication qui est donnée, et c'est important, en ce qui concerne bien le périmètre sur lequel on va parler des conséquences environnementales, c'est l'activité de l'entreprise, les projets et les décisions de l'employeur. Donc justement, ce qui est très important, c'est que les conséquences environnementales, là encore une fois, c'est une notion qui peut être perçue de différentes manières. Et donc, ce qui est important, c'est que lorsque vous allez dans le cadre de vos obligations en matière de dialogue social, c'est vraiment le périmètre de l'activité de l'entreprise et des projets et des décisions de l'employeur qui sera le cadre des débats. Il convient à ce moment-là de faire le choix des indicateurs. Et c'est là où ça va être un travail absolument fondamental et fondateur aussi, puisque c'est ces indicateurs qui, à partir du périmètre qui aura été défini, ils vont vous permettre en fait de structurer un petit peu tous les travaux que vous allez entreprendre, toutes les consultations, les négociations que vous allez pouvoir être amené à entreprendre sur ces conséquences environnementales. Alors, on peut faire référence donc à des indicateurs. Comme vous l'a indiqué, vous précisez Jean précédemment, il existe déjà de nombreux travaux qui ont défini des indicateurs en matière de conséquences environnementales. Donc déjà, je dirais dans un premier cercle, là encore une fois, reportez-vous déjà aux documents dont vous disposez déjà, aux travaux qui ont déjà été faits, et par rapport à l'activité de votre entreprise, de votre secteur d'activité, mais aussi de votre localisation géographique, puisqu'on sait très bien que les conséquences environnementales ne seront pas les mêmes si vous êtes en bordure littorale, si vous êtes dans un bassin d'emploi très industriel, si vous êtes près de l'étang de Berre, si vous êtes dans le Cotentin ou si vous êtes en Île-de-France, déjà votre zone géographique, les conséquences environnementales ne seront pas exactement les mêmes. Et ce qu'on vous propose, c'est en fait de progressivement vous constituer une base de données en matière de conséquences environnementales, mais d'un point de vue RH. Parce qu'en fait, il existe déjà des bases de données par rapport à vos obligations en matière de droit des affaires, en matière économique, en matière de simplement technologique par rapport aux matériaux que vous utilisez, à vos process, etc. Il y a déjà de nombreuses entreprises qui ont des contraintes, mais ce qu'il faut, c'est que vous récupériez un petit peu toutes ces données pour, je dirais, les retravailler dans cet objectif qui est donc de définir les conséquences environnementales par rapport à des projets, aux projets et à l'activité de l'entreprise. Parce que ce qui est important, c'est sur quoi va être consulté le CSE. Le CSE va être consulté, donc, comme on l'a dit, sur les conséquences environnementales dans le périmètre de l'entreprise. Et il ne s'agit pas des conséquences environnementales, justement, au sein de la société civile. Et ça va être un enjeu important, je dirais, vis-à-vis du positionnement que peuvent adopter certaines organisations syndicales ou certains membres du CSE. La loi climat pose une obligation positive à l'employeur, c'est-à-dire qu'elle lui dit, lorsque vous avez un projet, lors de vos orientations stratégiques, lors de votre bilan économique, social, etc., vous devez procéder à une évaluation des conséquences environnementales de votre décision ou de votre projet. Donc, elle vous dit, vous devez faire quelque chose. Vous ne pouvez pas rester dans une position, je dirais, passive. C'est à vous, en fait, de vous engager. C'est ce que soulignait Philippe Vivien, peut-être que la nouveauté par rapport à des textes de loi antérieurs, c'est que justement, vous n'avez pas un cadre extrêmement précis. Le législateur, en fait, vous a donné une notion, vous a donné un impératif. Vous devez procéder à cette évaluation, mais je dirais, il n'a pas défini strictement cette notion pour qu'il y ait une certaine plasticité et que vous puissiez justement vous adapter par rapport aux spécificités de votre entreprise en fonction aussi de votre taille. Parce qu'il est évident que là aussi, tous les facteurs vont jouer. Votre localisation géographique, votre type d'activité, mais aussi évidemment la taille de votre entreprise. Et donc, c'est en fonction de tous ces facteurs que c'est à vous de procéder à cette première évaluation. Ce qui est important aussi, c'est que ce n'est pas une obligation, je dirais, qui est figée. C'est-à-dire que c'est aussi au fur et à mesure qu'on voit que vous allez travailler cette question, que petit à petit, vous allez pouvoir aussi affiner la manière dont vous procédez à ces évaluations. Enfin, dernier point qui est important, c'est que autant la loi climat vous oblige à procéder à cette évaluation, pour autant, la loi n'a apporté aucune modification au principe de la négociation et au principe de l'information consultation. C'est-à-dire que l'avis du CSE n'est pas un avis bloquant et que l'employeur reste libre dans le choix dans son choix de décision. La loi ne vous dit pas que vous êtes obligé de retenir la décision la plus éco-responsable. C'est-à-dire que autant vous êtes obligé procéder à l'évaluation, mais pour autant, c'est vous qui restez maître de la décision et vous n'êtes pas tenu de choisir la solution la plus éco-responsable. La seule obligation de résultat que vous ayez, c'est l'obligation de moyens renforcés dont vous disposez, c'est par rapport aux conséquences en termes de santé-sécurité. C'est-à-dire que, et là, vous pouvez avoir les deux domaines peuvent se recouper, c'est-à-dire que quand vous prenez une décision, que vous avez un projet, qui va, vous avez l'obligation de procéder à l'évaluation par rapport aux questions de santé, sécurité au travail. Et là, vous êtes tenu de retenir, de choisir les options qui ont l'impact le moins fort en termes de santé, sécurité, négatif évidemment, sur la santé, sécurité de vos salariés. Mais par contre, en matière environnementale, pour l'instant, l'obligation ne va pas aussi loin. C'est une simple obligation de procéder à l'évaluation. Enfin, et c'est là que je vais passer la parole donc à Philippe Vivien, ce qu'on vous propose, c'est justement d'élaborer aussi un parcours commun avec vos partenaires sociaux.
C'est vraiment un des points de synthèse pour nous qui est important, c'est vraiment d'essayer de trouver une façon de travailler ensemble. Je vais le dire très simplement, je crois que c'est un sujet sur lequel il faut éviter de dire on n'a pas le choix. Il faut au contraire se dire c'est une opportunité de travailler ensemble. Et je crois que plutôt que de se regarder en chien de faïence sur le sujet dans la série, mais quelles questions il va me poser, comment ça va se passer au CSE, est-ce qu'on peut essayer de progresser ensemble? Regardez comme on l'a fait il y a quelques années sur les enjeux d'organisation du travail, comme on l'a fait il y a quelques années sur finalement, et comme on vient de le faire à toute vitesse, contraint et forcé, si je puis dire, par la Covid, sur les nouvelles formes d'organisation du travail. Je crois que là, on a un sujet qui est un sujet sur lequel on peut se retrouver. Regardez, il suffit de regarder un peu les positions des organisations syndicales sur le sujet. On voit qu'aujourd'hui, ces éléments environnementaux sont, pour la plupart des syndicats, des éléments qui sont importants. Alors, clairement, vous allez me dire, oui, mais entre le discours national du secrétaire confédéral et mon délégué syndical ou le membre du CSE, on en est bien loin. C'est vrai, mais on voit bien, enfin nous, on constate quand on discute avec des organisations syndicales que c'est un sujet sur lequel ils forment pas mal aujourd'hui leurs représentants. Donc, je pense qu'il ne faut pas laisser la porte ouverte à, je dirais, une compétence donnée d'un côté et nous rester dans une logique où ça reste du domaine de l'employeur et où ça simplement du domaine de la loi, je crois qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble sur le sujet. Après, ça peut prendre toute forme, clairement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut essayer d'avoir une sorte de charte avec le CSE ou avec les OS sur le sujet? Est-ce que ça veut dire que, tout comme on a négocié beaucoup d'accords au fil des années sur la façon dont on s'occupait des réorganisations au plan, même pas au plan de l'emploi, hein, mais véritablement au plan du traitement et de l'accompagnement de l'organisation, est-ce qu'il n'y a pas un sujet à traiter sur ce point? Là encore, avec toujours pour nous, un point sur attention, ne pas aller trop loin. Mais on considère que le meilleur moyen de ne pas aller trop loin et de ne pas être débordé, c'est d'essayer de convenir ensemble du périmètre dans lequel on va travailler. Donc vous voyez, c'est vraiment ça, nous, notre approche du sujet.
La première, et c'est ce que je dis, la première mesure de cette loi climat et résilience, c'est de mettre au cœur la question environnementale dans les missions générales du CSE, puisque on vous dit dorénavant que, et ça c'est pas nouveau, hein, c'est que le CSE a une mission, c'est d'exprimer, c'est d'assurer l'expression collective des salariés dans la prise en compte des décisions importantes, hein, prise en compte dans les décisions importantes, donc prise en compte de cette expression collective des salariés, et on a rajouté dans le texte, notamment, au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Alors, on m'interroge déjà en disant, mais ça veut dire quoi? C'est à la fois simple et compliqué. L'article en question, qui est l'article 2312-8, finalement, du Code du travail, qui est, je dirais, le centre des obligations de consultation du CSE, c'est que toutes les décisions importantes, et ça vous le savez déjà, toutes les décisions importantes qui touchent à la marche générale de l'entreprise, intéressant l'organisation, nécessitent une consultation. Et lorsque, sur cette thématique, enfin, en tout cas, lorsque on doit consulter le CSE, on doit également, nous dit le texte, on doit également consulter le CSE sur les conséquences environnementales des mesures en question. Il va falloir que vous ayez, je dirais, le livret vert. Le livret vert, c'est-à-dire le livret qui va accompagner les décisions. Alors se pose la question au niveau du CSE, et je suis également, on partage la même optique avec Marie-Françoise et Philippe Vivien sur le dialogue social. Et d'ailleurs, la question de l'environnement et de la santé se rejoignent, et très vraisemblablement, aujourd'hui on parlait de QVT, qualité de vie au travail. Maintenant, on parle de QVCT, qualité de vie et conditions de travail. Et très vraisemblablement, demain, on aura un accord de qualité de vie et des conditions de travail et des conditions donc et environnementales. On va passer à la QVCTE bien évidemment très rapidement parce que c'est des questions qui sont éminemment liées. On fait de l'écologie pour aussi pour la santé des salariés et tout ça est lié. Et d'ailleurs dans un accord, on parlait d'un accord de transition écologique. On y travaille déjà. On a plusieurs angles d'attaque. Bien évidemment, il y a la question du dialogue social, de la BDES, de qu'est-ce qu'on va donner comme information. Il y a la problématique également de l'écomobilité dont on a parlé. Et il y a également un troisième pan sur apporter une dynamique au niveau des salariés par la formation, par un référent. On aura un peu sans doute un référent environnement. Va y avoir effectivement des accords qui vont se mener. Mais maintenant, très concrètement, au niveau du CSE, est-ce qu'on doit mettre en une commission ad hoc? Quels sont finalement les moyens? Alors, la loi ne prévoit rien, c'est-à-dire qu'elle apporte au niveau du CSE des obligations nouvelles pour l'employeur et bien évidemment pour les partenaires sociaux qui doivent assurer l'expression des salariés dans le cadre des conséquences environnementales. Il y a plusieurs possibilités, ça va vraiment dépendre de la taille de l'entreprise. J'ai plutôt tendance à penser que dans les entreprises d'une taille importante, suffisamment structurées, dans un premier temps, il est fort probable qu'on crée peut-être une commission ad hoc. C'est pas ce que je recommande. Il faudrait qu'en réalité, comme les questions d'environnement et de santé sont liées et que la formation aussi qui va être proposée, notamment les congés économiques, vont porter également en matière environnementale, de la matière environnementale. J'ai plutôt tendance à voir et recommander d'essayer d'en faire un point supplémentaire de cette commission santé, sécurité et des conditions de travail qui pourrait être environnementale. C'est vrai que les textes ne permettent pas de déléguer la problématique environnementale. Les textes sont encore les annonces Macron, c'est-à-dire que le CSE peut déléguer tout ou partie des prérogatives en matière de santé et sécurité. On ne nous dit pas aujourd'hui dans la loi environnementale, mais je crois qu'il va falloir y aller. Le point important, c'est que si cette commission va prendre en plus la casquette de commission environnement, encore faut-il que l'on discute des moyens, de la formation. Et le dernier point, c'est que de toute manière, cette commission ne prendra pas de décision. C'est bien le CSE qui est consulté et jamais cette commission qui va préparer les travaux pour aller plus vite au niveau des CSE, mais qui ne va pas se positionner. Et ensuite, quel niveau privilégié? Deux points, ça va dépendre effectivement de la décision. Est-ce qu'elle concerne, si vous avez différentes un comité central et des comités d'établissement, aujourd'hui, vous savez globalement comment faire, il y a des accords également dans la matière. Lorsque ça concerne qu'un établissement et qu'un CSE d'établissement, c'est la problématique du comité d'établissement, et la BDES est normalement paramétrée au niveau des établissements, et lorsque cette question est générale et ne nécessite pas d'adaptation dans les établissements, ça va être une question qui va concerner le CSE central et l'ensemble de l'entreprise. Donc ça va vraiment dépendre à la fois de votre entreprise et ça va dépendre du sujet qui est évoqué, des décisions prises, si elle englobe toute l'entreprise sans adaptation dans les établissements ou si elle nécessite des adaptations dans l'établissement ou enfin si elle ne concerne qu'un établissement. Je passe la parole à Marie-Françoise parce que je parle, mais elle a aussi beaucoup de choses à dire.
Juste deux petites indications. En ce qui concerne, donc, je dirais, les nouvelles missions du CSE, ce qui peut être aussi intéressant, c'est justement ce que Philippe Vivien vous proposait, c'est-à-dire comme au démarrage, sauf cas particulier, personne n'y connaît rien, ni du côté de l'employeur, ni du côté des organisations syndicales et des membres du CSE. Globalement, personne n'est particulièrement spécialiste de ces questions-là. Donc justement, ça peut être aussi intéressant de proposer dans un premier temps une démarche de formation pour justement déjà s'approprier, se familiariser avec toutes ces notions et justement progressivement définir le périmètre sur lequel on va les indicateurs, comment on va aborder la question. L'un des points qui peut être traité, c'est justement de savoir, on fait une commission ad hoc ou non, comment on répartit cette question entre les différentes commissions existantes, sachant qu'aussi, on peut faire des expérimentations. Maintenant, en pratique, comment ça va se passer? En ce qui concerne donc toutes vos consultations ponctuelles, d'abord, ce qui est important, c'est que rien ne change. ce n'est la, les conséquences environnementales, ce n'est pas un nouveau cas de consultation, d'information, consultation, de déclenchement d'une procédure d'information, consultation du CSE. Le CSE n'est saisi que par rapport au, à son domaine traditionnel de compétences. Donc du coup, si on reprend l'article général qui donne des, qui confère des attributions générales, je dirais, au CSE, ça veut donc dire concrètement que dès que vous aurez un projet de licenciement économique, de transfert, de réorganisation, de déménagement, de mobilité, donc tous ces je dirais, ces projets très fréquents, structurants, pour lesquels vous devez traditionnellement engager une procédure d'information-consultation, c'est à cette occasion que vous devrez faire concrètement une évaluation des conséquences environnementales. Alors ensuite, en ce qui concerne donc les consultations récurrentes, alors là, vous savez que vous avez trois situations, enfin trois obligations d'information-consultation obligatoire sur donc les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l'entreprise. À l'occasion de chacune de ces informations-consultations obligatoires, vous devez à ce moment-là présenter là aussi les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Lorsque l'expert comptable peut être sollicité, à ce moment-là, il peut étendre sa mission au volet, aux conséquences environnementales. Alors évidemment, l'expert comptable n'a pas lui-même de compétences en matière, en matière environnementale. En ce qui concerne les orientations stratégiques et les autres informations, consultations, si le CSE a la possibilité de recourir à un expert comptable et décide de recourir à une expertise comptable, ça veut dire que l'expert comptable pourra lui-même s'adjoindre en fait l'aide d'un expert en matière environnementale pour justement fournir au CSE des indications pour l'aider à comprendre les documents éventuellement que vous aurez fournis en matière environnementale. Sur les conséquences environnementales, un point important à souligner, c'est que là aussi, ce sont les règles, notamment jurisprudentielles actuelles, qui existent, qui vont s'appliquer. C'est-à-dire que l'expert ne va pas pouvoir aller au-delà du périmètre de ce qui est nécessaire au CSE pour rendre son avis. Donc, là encore une fois, la notion de périmètre va être extrêmement importante. Autre point important, c'est aussi la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation qui va s'appliquer en ce qui concerne les documents qu'on vous demande. C'est-à-dire que la Cour de cassation vous dit clairement que dans le cadre d'une expertise, l'expert ne peut pas vous demander de constituer des documents spécifiques, des documents dont vous ne disposez pas. En ce qui concerne la négociation, alors là, on peut dire que très curieusement, le législateur, à ce stade, via la loi climat, a privilégié en fait le CSE. Les questions environnementales, formellement, devront être abordées lors des négociations GPEC si vous n'avez pas d'accord qui organise les négociations GPEC, ce qui semble être le cas de la majorité des entreprises. Mais on peut considérer aussi que la négociation d'entreprise va être plus globalement impactée quand même par ces questions environnementales. Et la première étape, on peut l'imaginer, ça va être quand même vos NAO 2022. Même s'il n'y a pas d'obligation, aucune obligation particulière, vous allez être challengé.
En remerciant Jean, en remerciant Marie-Françoise et vous toutes et tous, on vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas, s'il y a des thèmes de webinaire qui vous intéressent, à nous en faire part. On sera là, on est là pour vous, on est là pour vous filer un coup de main. Et à très bientôt.